Donc aujourd'hui, on va terminer la série Nouveau Départ et avec Bien Terminé. Quand je travaillais en tant qu'enseignant de français langue étrangère au Brésil, je travaillais dans une école qui s'appelait Didanc. Et une de mes tâches, c'était de préparer des adultes pour des tests de validation de langue. Ça existe par exemple le DELF et le DALF, qui sont des tests qui sont émis par le consulat français pour prouver leur niveau de langue, pour qu'ils puissent étudier en France par exemple. Il y a un autre qui s'appelle, je ne sais plus le nom, mais c'est pour les futurs étudiants de master ou doctorat. Ils doivent pouvoir prouver dans ce test qu'ils peuvent lire dans la langue étrangère, dans ce cas le français. Mais il y a un autre test que je ne connaissais pas du tout qui s'appelait CAPES. Là, c'est très spécifique pour ceux qui veulent faire une maîtrise ou un doctorat à l'étranger. Et une fois, seulement une fois, j'ai préparé un étudiant à passer ce test. Mais je fais une erreur. Cet étudiant, il avait une quarantaine d'années, il souhaitait faire un doctorat en France, et il était professeur de portugais dans le réseau public. Donc au niveau linguistique, ça allait bien. Et j'ai échoué dans mon enseignement, parce que comme j'ai dit, j'avais déjà préparé les gens pour les autres trois types de tests, et beaucoup de fois, je connaissais très bien comment était l'examen, comment on devait le faire, qu'est-ce qu'il fallait pour le passer. Mais celui-là, je me suis juste basé parce que l'étudiant avait dit comment il était ce test, et un autre professeur il avait dit « Ouais, c'est un peu comme ça, cet examen, c'est comme ça. » Et je pensais que c'était à peu près la même chose que les autres examens. Donc, j'ai vu que l'étudiant parlait très bien le français, il était professeur de portugais, donc il savait organiser ses idées dans un texte. Son français écrit était grammaticalement correct. Donc, je lui ai dit « Bien sûr, vous allez réussir !» Et lui, « Non, mais j'ai peur, je ne sais pas si je vais y arriver. » Et moi, « Bien sûr, vous allez réussir, votre français est super bon, ayez confiance en vous-même. » Quelques jours après l'examen, il m'appelle, il m'a dit qu'il n'a pas réussi son examen. Quand il est venu en classe, il m'a expliqué la raison. Il avait aussi une compréhension orale dans cet examen, et puis dans l'autre examen pour master, il n'y a pas de compréhension orale, c'est juste l'écriture, la compréhension écrite et la production orale. Et donc, on n'avait pas travaillé vraiment ce domaine-là. Et deuxièmement, dans la partie écrite, il y avait deux textes à produire. Il a produit un complètement, et quand il a voulu produire l'autre, il n'y avait plus de temps. Et donc, il a laissé en blanc le deuxième texte. Donc, lui, il n'était pas super démotivé, même s'il a perdu 260 reais, ce qui est énorme pour le Brésil. Mais moi, j'étais très frustré d'avoir échoué avec lui. De lui avoir donné, avec autant de conviction, des espoirs qui finalement étaient faux, parce qu'il n'a pas réussi son examen. Et la Bible est très claire qu'à la fin de cette vie, on aura un jugement. Une sorte de test d'ALF de français pour évaluer comment s'est passée notre vie, pour dire si on a été approuvé ou non. Et j'aimerais pouvoir vous dire que Dieu est seulement un Dieu miséricordieux, un très bon grand-père qui permettra à la fin à tout le monde d'entrer au ciel. Mais c'est pas ce que Jésus a enseigné. Si seulement l'Ancien Testament parlait d'un jugement final, par exemple, et que Jésus était venu pour casser cette idée, On pourrait le dire, parce que c'est Jésus notre principal modèle pour l'enseignement. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Juste pour citer en Matthieu le nombre de passages qu'il parle d'un jugement final, il y a Matthieu 5, Matthieu 7, Matthieu 8, Matthieu 10, Matthieu 13, Matthieu 18, Matthieu 22, Matthieu 25. Dans tous ces passages, il y a des paraboles ou des enseignements sur un test à la fin de notre vie, quand on passera de l'autre côté. Mais le passage que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est même pas en Matthieu, mais c'est en Luc. Et il le dit. Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens ?» Jésus répond à tous, « Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous dis, beaucoup de gens essayeront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de la maison se lèvera et il fermera la porte. Vous, vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper la porte en disant « Maître, ouvre-nous !» Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz « Mais nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Vous savez, c'est une question beaucoup plus importante que de rater un test de compétences linguistiques. Donc, je ne peux pas vous dire, comme j'ai dit à mon élève, « Ah, mais ça va, tu vas être approuvé à ton arrivée, ne t'en fais pas. » Non. On parle ici de notre bien le plus précieux, de la seule chose qui reste après la mort, de l'avenir de notre âme. Et dans ce passage, il est très clair que les personnes qui pensaient être en sécurité, qui pensaient avoir un endroit sûr, qui pensaient que c'était garanti, en effet, ils ont mangé avec lui, ils avaient entendu les enseignements de Jésus à l'époque, eh bien, ils ont été exclus et accusés de personnes qui font le mal. Une fois, quelqu'un qui est chrétien depuis plusieurs années m'a dit « Je ne suis pas absolument sûr d'aller au ciel. » À une autre occasion, j'aurais essayé de la convaincre à tout prix qu'elle était sauvée. Aujourd'hui, je l'encouragerais à chercher le Seigneur, parce que c'est seulement lui qui peut donner cette assurance, la découverte incroyable de la grâce. Et pour cela, je pense que parfois, le sentiment de « je ne suis pas sûr d'aller au ciel » peut parfois être meilleur que le sentiment de « je suis absolument sûr que je vais au paradis ». Parce que dans l'histoire qu'on a lue, les gens pensaient que c'était garanti, ils étaient sûrs. Et regardez ce que Jésus il a dit au début. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. C'est ce que Jésus a dit au tout début de ce passage. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Dans les autres textes de la Bible, c'est clair qu'on ne peut pas gagner nos efforts, notre place au ciel par des efforts. Ça, c'est clair. En disant « faites l'effort », je pense que Jésus veut montrer que ce n'est pas automatique d'entrer au ciel. L'effort, c'est le contraire de la passivité. Monter la tournelle à vélo, c'est un effort. Faire des achats en ligne, pas trop. Passer l'aspirateur et la pâte dans toute la maison et laver la salle de bain, ça c'est un effort. Payer quelqu'un pour le faire, au pire attendre que son conjoint le fasse, ça non. Passer des jours à étudier pour un examen, ça, c'est un effort. Passer des heures sur les réseaux sociaux, pas vraiment. Vous savez ce que c'est l'effort, c'est faire un pas, c'est être en mouvement, c'est bouger pour atteindre un objectif. Et ici, Jésus commence par dire que le salut ne vient pas passivement. Il faut aussi une action de notre part, même si c'est gratuit. Il faut être en route. C'est ça que Jésus a voulu dire. Il faut être en route. Et je sais que l'effort, spirituellement parlant, varie pour chaque personne. Le pas qu'on doit prendre est différent pour chacun. Mais une chose est sûre, seulement dire « je crois en Dieu » ne garantit rien, ni pour toi, ni pour moi. C'est quoi donc cet effort que Jésus parle? La parabole parle du critère d'évaluation dans le jugement final. Et on va jeter un coup d'œil. Donc, mais il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Alors la première chose qu'il dit, c'est, je ne vous connais pas. Probablement, vous savez qui est Donald Trump, vous savez qui est Messi, vous savez qui est Céline Dion. On sait qu'ils existent. Mais qui peut dire ici qu'il connaît ces gens? Qui a pris un café ensemble avec eux et qui a découvert des choses sur comment ils sont vraiment, pas sur ce qu'on voit à la télé, sur ce qu'ils sont vraiment. Je pense que personne ici connaît ces personnes. Savent qui ils sont, mais connaître, non. Et c'est la même chose pour l'évaluation là-bas au ciel, à la fin de notre vie. Il ne veut pas savoir si tu connais des histoires bibliques ou si tu connais certaines qualités de Jésus. Il veut savoir si tu le connais personnellement. Cette question vaut plus de points que toutes les autres dans le test à la fin de notre vie. C'est seulement quand j'avais, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est seulement quand j'avais 9 ans que j'ai commencé à connaître Dieu personnellement. On avait déménagé de São Paulo à Recife, 2000 km de distance, et j'avais laissé mes amis, une partie de ma famille pour déménager avec mes parents et mon frère dans cette nouvelle ville. Et là, je me suis dit, j'ai envie de découvrir si c'est vrai ou pas. Si ce que la Bible dit, c'est ça marche dans la vie réelle, ou si c'est juste des choses qui sont racontées et que j'ai suivies à l'école du dimanche. C'est là pour moi le début de la recherche de Dieu. Et connaître Dieu, c'est comme toute autre relation. On se rencontre et on parle. En lisant la Bible, je découvre des choses sur lui et je lui parle sur ce que je vis. En allant au travail, je l'invite à venir avec moi et puis on discute au fil de la journée. Je découvre ce qu'il veut de moi et je mets en pratique dans mon quotidien. Je pose des questions et j'attends à recevoir des réponses. Les réponses peuvent venir de plusieurs endroits différents. Elles viennent de la Bible, elles viennent des personnes, elles viennent des situations, elles viennent dans une pensée, elles viennent dans une lecture. C'est Dieu qui parle. Alain Oderzé, c'est un dessinateur de BD suisse. Et il a partagé comment lui, il vit sa relation avec Dieu.
J'essaye de tout faire avec la complicité de Dieu. Pas parce que je dois, comme « dis bonjour à la dame ». Non. C'est juste que je le kiffe. J'apprécie sa personnalité. J'adore être en sa compagnie. Il est le soleil de ma journée. C'est la personne avec qui je me sens le moins jugée ou critiquée au monde et le plus compris. Pourtant, comme dans n'importe quelle amitié solide ici-bas, il ne se gêne pas de me dire si un truc cloche dans ma vie. Mais quand ça vient de lui, je ne ressens pas une once de rejet de sa part, ni aucun sentiment d'écrasement. C'est alors l'occasion d'en parler, d'ouvrir un dossier, d'améliorer et de construire ensemble. Faut dire que Jésus a une patience et une sensibilité de ouf. Quand la tempête est sur le point de me fondre dessus ou que je suis assis sur le sommet d'un précipice, j'ai appris à poser ma tête sur son épaule, à fermer les yeux et à goûter à la paix intérieure. Mais ça, je n'y arrive pas toujours. J'ai une petite tendance à être débile. Pour être honnête, l'avenir est parfois incertain pour moi. Maintenant, par exemple. J'ai quelques courts moments de réalisme flippant, mais ils ne durent jamais longtemps, car j'ai compris que quoi qu'il arrive, on sera ensemble, alors je respire à nouveau. Il est mon consolateur et ma force. Où que je sois, à l'étranger ou encore paumé sur ma route, tant que je suis avec lui, je me sens à la maison. Nous aimons traîner ensemble. Quelques mots de sa part suffisent pour que ma façon de voir s'écroule, et en tant que créatif, j'aime bien cette sensation. Il m'arrive de ressentir comme un mouvement de cœur ou une attitude de sa part, et on se comprend l'un l'autre sans qu'il soit nécessaire d'échanger des mots. Mais bon, j'avoue, je suis souvent à côté de mes pompes. D'ailleurs, il me fait rire et je crois bien que c'est réciproque. Jésus et moi, on s'est mutuellement adoptés. Je l'aime et lui, il me kiffe encore plus. Ça m'épate trop, car je ne suis que moi. Je sais que je peux paraître perché en disant ça, mais désolé, on va dire que je m'en fous. De plus en plus, son regard m'importe plus que celui du reste du monde. C'est lui mon meilleur ami dans la vie. Il est incontestablement l'être vivant avec qui je passe le plus de temps et à qui je confie tous mes secrets. Il lui arrive de m'expliquer les siens. Il explique super bien, mais sérieux. Parfois, c'est tellement décalé de nos conceptions que je garde ça pour moi. N'aggravons pas mon cas. Quand j'écris, dessine, poste un texte sur le net, une vidéo, etc., on le fait ensemble. L'art, en plus d'un plaisir, est pour moi un exercice d'écoute. C'est devenu une des choses que je préfère. C'est une sorte d'air de jeu où l'on se retrouve pour jouer ensemble. Donc, si autant de gens redécouvrent Dieu en lisant mes livres, les rendez-vous dans la forêt, en voyant mes spectacles ou les vidéos que je poste, tout le mérite ne revient qu'à lui. Moi, ça me dépasse totalement. Alors si à l'écran, physiquement, on ne voit que moi, en réalité, je ne fais que me tenir à côté de lui. C'est lui qui accomplit l'impossible. Les guérisons miraculeuses, quand ça arrive, les vies bouleversées, les conversions, les coïncidences de ouf, les paroles de circonstance, ce n'est que lui. Moi, je ne sais pas faire ça. Je n'ai aucune recette théologique à la mode ou de trucs pour que de telles choses arrivent. Je n'ai que lui.
C'était le témoignage d'Alain Audervé. Et puis, c'est vraiment merveilleux. Je vous encourage à essayer par vous-même. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, c'est ça. « Allez-vous-en loin de moi. » D'abord, il avait dit « Je ne sais pas qui vous êtes. » Après, il dit « Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Le deuxième sujet évalué sera les actions. Dans une autre parabole, Jésus explique mieux. Il le dit comme ça. « Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes deux mains et tes deux pieds, d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance. » Regarde, ici encore une fois, il le répète, fais un effort dans le sens de « sois en route ». Quand j'étais petit, je pensais qu'il parlait littéralement de ça et ça me frayait. Je pensais qu'il voulait vraiment dire de couper la main. Mais comme chaque parabole, c'est pas ça. Il utilise une illustration pour représenter une plus grande vérité. Ce qu'il dit, c'est de faire l'effort d'éliminer les choses qui te font pécher. Si c'est une amitié, éloigne-toi. Si c'est une chaîne YouTube, désabonne-toi. Si c'est un défaut de caractère, demande de l'aide. Coupe, fais quelque chose. Parce qu'il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux sans avoir un ami, sans regarder une vidéo, sans avoir une manie, qu'en ayant ces choses être jeté loin du ciel. Qu'est-ce que tu sais que tu dois éliminer complètement de ta vie aujourd'hui? Et combien de temps tu vas prendre pour prendre ces décisions? La troisième chose qui sera évaluée, c'est si tu as continué ton chemin jusqu'à la fin. Mon élève était vraiment un excellent élève dans tous les textes qu'il a produits. Au cours des mois, il avait écrit des textes sur plusieurs thèmes différents, sur l'actualité, et il a obtenu d'excellentes notes. Mais le jour du test, il a laissé un texte vide, un texte qu'il aurait dû produire. Dans la ligne d'arrivée, il était juste au point de réussir. Et ils ont fait les calculs, et juste à la fin, il a échoué au test. Les livres de 1 roi et 2 rois 1 et 2 chroniques racontent l'histoire des rois d'Israël depuis l'époque où ils étaient un peuple uni jusqu'à ce qu'ils soient divisés entre le royaume du nord et le royaume du sud. Et à la fin de la vie de chacun, l'auteur évalue 3 choses dans le livre des rois et des chroniques. Il évalue 1. Si la personne a cherché connaître Dieu. 2. S'il a éliminé le péché. Et 3. S'il a persévéré jusqu'à la fin. Ensuite, ils disent si le roi a été approuvé par Dieu ou non. Jetez un coup d'œil plus tard. Il évalue toujours les rois de ces 3 façons. Il y a des rois qui étaient mauvais du début à la fin. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui ont bien commencé, se sont égarés au milieu, mais ensuite se sont revenus sur le chemin. Mais il y a quelques-uns, et c'est là le plus triste, qui ont très bien commencé et qui malheureusement ont mal terminé, comme Saül. Le roi Saül, il avait été oint par Samuel, le garçon qui écoutait la voix de Dieu. Il avait déjà été rempli par l'Esprit de Dieu, il avait prophétisé avec d'autres prophètes à un moment donné de sa vie. Dans sa consécration comme roi, Samuel a dit qu'il n'y avait personne comme lui parmi tout le peuple. Et Dieu a même touché le cœur de certains hommes pour servir Saül en tant que soldat d'élite au début de son ministère. Mais à la fin, la description est la suivante. Tu peux passer, Julie, pour moi, s'il te plaît. Ouais, encore une fois. Saül est mort parce qu'il n'a pas été fidèle au Seigneur. Il n'a pas obéi ses commandements. Il est même allé consulter une personne qui interroge les morts au lieu de consulter le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur l'a fait mourir et il a donné le pouvoir royal à David, fils de Jessé. Il a très bien commencé, Saül, mais à la fin, il a abandonné le but de sa vie. Il a été rejeté par le Seigneur. Et pendant longtemps, j'ai parlé au Seigneur, « Seigneur, je veux bien finir ma course. J'ai peut-être eu un bon départ avec une famille qui était chrétienne. J'ai grandi dans cette famille, mais je veux bien terminer surtout. Comment est-ce que je peux être sûr que je veux bien finir ?» Vous savez ce que j'ai obtenu comme réponse ? C'est rendre des comptes. En rendant compte à quelqu'un. Si on veut un mot plus joli, c'est la redevabilité. Avoir quelqu'un avec qui je peux parler sur mes hauts et mes bas, mes péchés, mes tentations, mes doutes, et aussi mes victoires et mes joies. Quelqu'un avec qui je peux révéler tout ce qui je vis sans masque. C'est un ami qui, en ce moment précis, est un représentant de Dieu dans ma vie. Et dans ces rencontres, je me laisse évaluer pour voir si je vais dans la bonne direction ou si je suis en train de m'égarer du chemin. Je m'expose pour savoir si je grandis dans la connaissance et l'intimité avec Dieu ou si je suis en train de reculer en ce moment dans ma vie. Si j'élimine chaque jour le péché qui insiste à entrer dans notre vie ou si je me laisse aller. Ouais, c'est normal, de toute façon, c'est comme ça. Si je prends des décisions avec sagesse et amour ou juste d'une manière égoïste ou d'une manière narcissiste. Ces rencontres peuvent se passer chaque semaine, tous les 15 jours, une fois par mois. C'est pas ça qui est important. Mais rendre compte à chaque étape de notre cheminement, c'est le plus important. On donne à l'autre le droit de dire la vérité avec amour. La personne pourra nous encourager, nous exhorter, nous corriger. Alors on peut réajuster le cours. Si je vérifie toujours que je suis sur la bonne voie, bien sûr, à la fin de ma vie, je serai à la bonne destination. On ne fait pas souvent ça dans nos cultes, mais aujourd'hui, j'aimerais le faire. J'aimerais vous demander, est-ce que toi, tu veux aujourd'hui rétablir un nouveau départ avec le Seigneur ? Est-ce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit met dans ton cœur ? Pour dire, Seigneur, je veux recommencer avec toi. J'aimerais un nouveau départ. J'aimerais être sûr, d'une certaine manière, de faire l'effort dans le sens d'être en route avec toi. Je ne veux pas être passif en espérant qu'un jour, ça va tout être bien. Peut-être tu n'as fait aucun effort, ou presque aucun, pour connaître Dieu et pour éliminer le péché. Peut-être tu l'as fait à un moment de ta vie, mais maintenant, tu as laissé des petits trucs revenir. Et ils ont pris de la place. Ces petites habitudes anciennes. Viens prier et recommencer avec Dieu. Il y a des gens qui sont là ce matin, qui ont été demandés de prier avec vous. L'Esprit t'appelle aujourd'hui à sortir de ton confort et à faire quelque chose pour ton âme. Le choix de la vie éternelle commence aujourd'hui. Pas à pas, c'est chaque jour. Est-ce que quelqu'un aimerait le faire maintenant ? Oderzé, dans la suite de son texte, dit « Je le sais, Jésus rêve de vivre une complicité d'amis aussi avec toi. » On se contente parfois d'être chrétien, d'avoir de la religion, des valeurs qui sont parfois des excuses, nos valeurs. Mais ça ne peut pas nous combler. Prenez le temps qu'il faut pour vous retrouver l'un l'autre au quotidien.